Here's a song that comes from Tanzania. Malaika.
Césaria, elle a été coupée brutalement là. Je pensais qu'elle allait, comme d'habitude, nous accompagner un tout petit peu. Alors, Césaria avait pris la suite de Leonard Cohen. C'était bien. On va continuer avec de belles choses, j'espère. Donc, bonjour, auditrices et auditeurs de Radio Galère et de cette émission Livres et Amis du mercredi 15 novembre. Belle journée ensoleillée sur Marseille avec Mistral. Hein. C'est l'automne, les arbres roussissent, mais il fait quand même doux, en particulier le soir. Alors profitons de notre belle ville en extérieur, en journée, en intérieur, un peu plus tard. Toujours des tas de projections intéressantes à l'Alhambra, au Gyptis, à la Baleine. Plein de festivals qui commencent. D'abord, ou qui se termine d'ailleurs, d'abord les dernières dates de la commémoration de la marche pour l'égalité contre le racisme. Vous vous souvenez, 2023, Marseille, c'était les 80 ans des rafles de Marseille de 1943, des rafles du panier et du quartier de l'Opéra, qui ont été commémorées de façon à la fois, disons, intéressante et intelligente par la ville. Et puis 2023, c'est aussi les 40 ans de cette grande marche pour l'égalité et contre le racisme qui était partie de Marseille et de Lyon, arrivée à Paris pour s'élever justement contre les discriminations et les violences à l'encontre des jeunes à l'époque. Donc rien n'a changé, continuons à nous élever contre les discriminations, les violences policières, continuons à lutter et même... Si la commémoration tire à sa fin, il y a eu pas mal d'événements au musée d'histoire, par exemple. Il y a encore des rencontres, il y a encore des projections, par exemple, à l'Alhambra lundi prochain. Lundi, ça doit être le 20. À l'Alhambra au Gyptis, il y a pas mal de choses qui durent encore jusqu'au week-end et qui le dépassent. Et puis, commence aussi pendant le week-end le Festival des Solidarités. Ça, ce sont des événements mis en place par la mairie de Marseille et surtout par les mairies d'arrondissement. Donc, le Festival des Solidarités commence ce samedi avec plein d'activités dans les différents arrondissements. Gros programme en particulier avec la mairie du 2-3, des 2-3, des 6-8, des 15-16... Donc des activités en extérieur pendant le week-end, des repas participatifs, des vide-greniers. Et puis donc toute la semaine qui suit, avec aussi à l'intérieur des rencontres, des débats, des projections. Donc allez voir tout ça sur Internet, sur le site de la mairie de Marseille et des différentes mairies d'arrondissement. Vous verrez, il y en a vraiment, comme on dit, pour tous les goûts. Et pour revenir à l'égalité et à la solidarité, revenons-nous dans Livres et Amis, à la vie de Yamina. Vous savez, Yamina, le personnage central de la discrétion qu'on a commencé à lire la semaine dernière, la discrétion roman de Faïz Aghen, qui est justement la marraine de la commémoration de la marche pour l'égalité et contre les discriminations. Donc Faïz Aghen, c'est une jeune autrice de notre siècle. Et dans la discrétion, elle égrène à la fois les souvenirs de Yamina qui lui est inspirée par un certain nombre de femmes de son entourage, et aussi ce que vit Yamina maintenant au XXIe siècle. Donc Yamina, enfant et adolescente en Algérie puis au Maroc dans les années 50-60, et Yamina, femme mûre, mère de famille en France à partir des années 80 et jusqu'à nos jours. Donc on vous avait fait remarquer la semaine dernière que ce roman, La Discrétion, est construit sur l'alternance de ces deux périodes. D'une part, les souvenirs dans la dernière partie du XXe siècle et l'actualité en région parisienne dans les années 2019-2020. On va commencer. Donc, on avait égrené quelques souvenirs la semaine dernière. On avait dit aussi des choses sur justement la vie d'Yamina à Aubervilliers en 2019-2020. On avait vu aussi un petit peu ses enfants. qui sont évidemment de grands enfants, de jeunes adultes ou des adultes déjà lancés dans leur vie, et qui ont été formés à la discrétion, entre guillemets, par leur maman, mais qui ne respectent pas toujours cette discrétion, parce que eux, et en particulier Anna, y a bien des moments où quand même ils bouent et ils explosent contre, en effet, certaines discriminations que subissent leurs mères ou qu'ils subissent eux-mêmes. Donc on avait dit alternance du passé et du présent. On va commencer cette semaine avec le passé par une scène absolument horrible. Eh bien non, ce n'est pas une scène de guerre. C'est pas la guerre d'Algérie dans les années 50. C'est l'arrachage d'une dent, figurez-vous. Et Yamina, oui, quand elle a une dizaine d'années, elle va au marché où il se passe plein de choses et où on lui arrache une dent. Alors il y a Françoise qui commence à faire la grimace et qui quand même courageusement va nous lire quand ça se passe et comment ça se passe.
Marché du boulevard de Oujda, commune d'Afir, province de Berkane, Maroc, 1959. Ça se passe au cœur du souk Afir, boulevard de Oujda. Au marché populaire, il y a déjà une foule de gens qui se bousculent. Les badauds s'agitent dans l'espoir de remplir de maigres provisions leurs paniers en osier. Des femmes portent d'immenses plateaux sur leur tête, elles font la queue devant le four communal pour donner leurs pains à cuire. Une agréable odeur de galettes chaudes s'en échappe. Les petits garçons aux mains noires cirent les chaussures des hommes qu'ils croient importants, tandis que les poules apeurées qui battent des ailes dans les cages posées à même la terre se préparent à leur destin. Il y a d'autres gosses, il mendient. Yamina traverse la foule en soutenant sa joue enflée de sa petite main et zigzague comme elle peut entre les coudes des passants. Elle croise le regard d'une fillette à peine plus âgée qu'elle, qui est en train de faire la manche. Yamina la voit attraper des hommes par le bras et tirer sur les djellabas des femmes en leur marmonnant quelque chose d'une voix suppliante, mais elle est repoussée à chaque tentative. Les gens du marché l'ignorent, aucun d'entre eux ne s'arrête pour lui donner une pièce ou un bout de pain, pas même pour lui dire un mot gentil. Soit tout le monde est affamé, soit personne n'a de pitié. Yamina a du chagrin pour la mendiante. Même avec cette douleur à la dent qui lui donne le vertige, elle se dit que si elle avait ne serait-ce qu'une date ou une carotte, elle la partagerait avec la fillette. Faute de mieux, elle s'approche d'elle et lui caresse l'épaule avant de continuer sa route. Yamina, elle, ne pourrait jamais tendre la main pour demander l'aumône. Son père préférerait voir ses gosses crever de faim plutôt que de les laisser quémander dans la rue. Une rage de dents l'a fait souffrir depuis plusieurs jours. Il a fallu que ça devienne insupportable pour que Rama se décide enfin à l'envoyer chez celui que l'on appelle l'arracheur.
Rama, c'est la maman de Yamina, je vous le rappelle.
Yamina a 10 ans à peine. L'homme, qui n'a aucun diplôme, pas la moindre compétence médicale, reçoit dans son cabinet improvisé au milieu de souk Afir, dans une guitoune verte, entre l'échoppe du vendeur de savon et la tente du cordonnier. Il est connu pour pratiquer la hijama, médecine ancestrale de la tradition prophétique, et se charge aussi de circoncire les garçons du village. L'arracheur vend même des poudres chimiques pour désinsectiser et dératiser les maisons. Yamina regarde les paquets entassés devant elle et les dessins effrayants de rats aux yeux rouges. L'homme, acariâtre, lui ordonne de s'asseoir sur le tabouret en bois et d'ouvrir la bouche. La fillette a à peine le temps de jeter un œil sur les outils. En vérité, il n'y a là qu'une petite pince de forgeron en métal, non stérilisée. C'est pire que dans le pire des cauchemars. L'homme lui arrache la dent violemment. Ça fait un bruit atroce. Yamina ne pourra jamais l'oublier. La dent a continué de s'effriter, encore coincée dans la pince, sous la pression de la main de l'arracheur. Yamina crie, sa tête va exploser, elle a du sang qui coule dans la gorge. Les voix, le bruit, la rumeur du marché qui rend fou, tout s'éteint peu à peu. La petite Yamina voit trouble, elle se sent partir, jamais elle n'a connu une pareille douleur. Il ne la laisse pas reprendre ses esprits, ne lui donne même pas un bout de tissu ou un morceau de coton. Elle pleure, toute chancelante, et l'arracheur se contente de demander les sous qu'elle lui doit avant de la renvoyer chez elle. Il lui dit « Quand tu seras arrivé à la maison, rince-toi la bouche avec de l'eau salée », tandis qu'il s'essuie les mains sur son pantalon en toile. Yamina doit maintenant marcher sous un soleil de plomb pour rentrer chez elle, seule. Elle souffrira régulièrement d'abcès et de migraines jusqu'en 1973, pendant près de 14 ans, sans que personne autour d'elle s'en préoccupe. Un jour, devant un miroir de poche, désespérée, n'en pouvant plus d'avoir à supporter cette douleur, elle creusera elle-même sa gencive ensanglantée à l'aide d'une tige de vigne et finira par en tirer un gros fragment noir, le morceau de dent pourri, oublié là par l'arracheur.
Oui, elle fait toujours la grimace, Françoise. Alors, je vous comprends, vous devez faire la même chose. Bon, ça finit bien, en fait. Ça y est, elle a résolu son problème. Elle a elle-même enlevé ce qui restait dans sa mâchoire du souvenir de l'arracheur. Alors, bon, c'est affreux, bien sûr, mais j'ai trouvé que cette scène était tout à fait typique d'un moment du XXe siècle qui aurait pu être au XVIe ou XVIIe ou XVIIIe, enfin, peu importe. Et moi, je me souvenais de trucs que racontait ma grand-mère en Italie quand elle était petite. Je ne sais pas, elle ne m'a jamais raconté qu'on lui avait arraché une dent, mais j'ai quand même l'impression que la médecine et la façon dont on s'occupait des enfants ou des jeunes, bah, c'était un peu ça. C'était, vous savez, comme disaient nos grands-parents, en effet, marche ou crève, quoi. Donc, Yamina, elle est rentrée chez elle et puis finalement, elle a réussi à enlever ce petit bout de dent qui lui était resté dans la mâchoire, comme on dit, 14 ans après. Donc, revenons maintenant avec l'alternance du passé et du présent. Revenons maintenant au présent et voyons comment vit Yamina à Aubervilliers. Yamina, elle a été élevée dans la foi, elle a été élevée dans l'obéissance. On verra tout à l'heure que quand même, de temps en temps, elle se rebelle. Et là, on nous fait, Faizagen nous fait la description de ce qu'elle vit dans la foi, précisément à Aubervilliers, en 2019. Yamina se réveille avant l'aube, comme chaque matin. Elle possède une de ces horloges automatiques qui fait l'appel à la prière. C'est Anna, sa fille, qui l'a commandée sur alidaya.fr. C'est une brave fille, elle offre souvent des petits cadeaux de ce genre à sa mère, qui chaque fois la remercie d'un « Oh, mais fallait pas, garde ton argent pour toi, Benti ». Il y a le choix entre plus de 1000 villes dans le monde, dans le menu « Réglage ». Yamina a mis ses lunettes de presbyte. Elle a d'abord cherché Aubervilliers, mais elle n'a pas trouvé. Elle a fini par sélectionner Paris. C'est déjà bien. Elle a pu choisir ensuite l'option Mouedin et opter pour son réciteur préféré, Abdulrahman Al-Soudaïs. Lorsqu'elle était abonnée à la chaîne Iqra, elle écoutait ses prêches à la Mecque tous les vendredis. Ses enfants la regardaient et ils savaient que ça n'allait pas tarder. Il y avait forcément un moment où Yamina allait se mettre à pleurer. Elle est pleine de foi, Yamina, et sa foi, souvent, oui, la fait pleurer. En secret, les enfants se cotisent pour qu'elle puisse faire le pèlerinage un jour. Mais ce matin-là, elle se dirige sans bruit vers la salle de bain pour effectuer ses ablutions avant la prière. Et elle se rappelle qu'elle a encore fait un rêve cette nuit. Ce rêve qui revient souvent. Ce rêve d'enfance. Toute jeune fille, elle porte un tablier d'écolière. Elle descend péniblement la pente du village pour se rendre en classe avec ses vieilles godasses et son cartable sur le dos. Le soleil perce les nuages et Yamina est heureuse. Elle aime l'école, c'est la meilleure élève des alentours. Le directeur la prend souvent en exemple. Yamina est brillante, elle apprend vite. Mais alors qu'elle arrive devant le petit bâtiment, les portes de l'école se ferment devant elle. Elle ne peut pas entrer, elle se met à cogner sur la porte. Elle crie « Ouvrez-moi, je veux entrer. Laissez-moi, je veux entrer à l'école, je veux étudier. » Et son père apparaît avec son beau visage pâle sous la grande capuche de cette djellaba marron. Il fronce les sourcils. Et non, il traîne la petite fille par le bras pour la ramener à la maison. Ce n'est qu'un rêve, ça fait exactement 57 ans que Yamina a été obligée d'arrêter l'école pour aider ses parents à la ferme et pour élever ses frères et sœurs. Sur ses 6 frères, 5 sont devenus professeurs et 1 est devenu assureur. Et Yamina, elle, a plus de 70 ans, elle se rêve encore avec un cartable sur le dos devant la porte de l'école. Et oui, elle rêve d'école et elle rêve que, en effet, à l'époque, les enfants allaient conduits par un voisin dans une remorque vers l'école. Et puis, elle pense aussi aux belles années qu'elle a vécues, par exemple, alors qu'ils habitaient encore en exil au Maroc, l'époque de l'indépendance. Il était temps de brandir les drapeaux. Nous sommes dans la province de Berkham, au Maroc, en juillet 1962. La nouvelle est d'abord arrivée à Dar el-Jeba, la maison du front, puis elle s'est propagée dans toutes les maisons du village, de la ville, de la région. L'Algérie est libre. Il est temps de sortir les drapeaux. Yamina n'oubliera jamais cette effervescence. La rue entière qui dansait, les femmes qui défilaient en faisant des you-you et en scandant « Taha el Jazahir, que vive l'Algérie !» tandis que le rayek blanc valsait dans la lumière de juillet. Pour le défilé, la fillette portait une tenue aux couleurs du pays, confectionnée par sa mère Rama, jupette verte, chemise blanche, cravate rouge. Yamina n'avait jamais vu sa mère dans un tel état d'euphorie. Elle embrassait les enfants, tous sur la tête, sur les joues, sur les mains, débordante de joie, débordante d'affection pour la terre entière. C'était miraculeux, la libération de son pays. Et c'était la liesse d'un peuple qui s'était soulevé. D'ordinaire, Rama était plutôt froide, même inaccessible, même quelquefois verrouillée. Elle n'était pas très à l'aise avec le contact des corps, même avec ses propres enfants. Mais là, ce jour-là, oui, elle avait bien compris que manifester ses sentiments, même si ce n'était pas habituellement une évidence, c'était vraiment le moment. Les sentiments, c'est grand, ça demande de l'espace pour s'exprimer. Avant, avec la guerre, la misère, le fait de se cacher, bah oui, c'était un vrai problème. Les sentiments, ils n'avaient pas vraiment de place. Mais là, l'indépendance, oui, les sentiments pouvaient prendre toute la place. Tout comme sa mère, Yamina se retenait naturellement de déborder. Ses émotions étaient souvent coincées à l'intérieur de son jeune corps tendu. Le corps ne coopérait pas toujours avec le cœur. Même si le cœur brûlait, le corps, lui, avait du mal à exulter. Mais ces deux étrangers, le cœur, le corps, oui, ils finissaient par se parler. Même si au début, ils ne parlaient pas la même langue, même si enfant, Yamina avait manqué de tendresse, elle avait capturé ces instants de vraie joie pour l'indépendance, ces instants de communion, y compris dans les gestes avec sa mère, ce jour-là, avec délectation. Rama, elle avait ce jour-là aussi dans ses bras sa dernière née, qu'elle avait appelée Jamila, en l'honneur de Jamila Bouhired, héroïne de la résistance algérienne. Une femme qui serait un modèle éternel pour Yamina, une figure de courage et de dignité. Entrée en résistance à l'âge de 19 ans, Jamila, elle avait été comme la grande sœur libre dont rêvait Yamina. Et oui, elle, à 12 ans, impatiente de revoir son figuier, l'image de Jamila Bouhired n'était pas seulement pour elle un symbole de combat pour la liberté de l'Algérie. Jamila Bouhired était l'Algérie. Et bien des années plus tard, Yamina emporterait avec elle en France une photo découpée dans le journal Liberté, sur lequel on pouvait voir la splendide Jamila dans sa robe blanche à l'occasion d'une visite officielle en Égypte, serrant la main d'un président Abdel Nasser subjugué. Le moment était venu pour Yamina de prendre des nouvelles de son arbre, de son figuier qu'elle avait laissé à la maison. Alors, qu'en est-il du figuier, qu'en est-il du village, qu'en est-il de la vie en Algérie après l'indépendance, quand la famille de Yamina y retourne. Peut-être que ce n'est pas, au fond, cet engouement général ou ce bonheur général qu'on aurait imaginé. C'est Françoise qui va nous lire ça.
Algérie, 1963. Yamina s'est accroupie au pied du figuier mort. Elle est restée ainsi un instant, traversée par la mélancolie. Son beau figuier ne bourgeonnerait plus. La jeune fille de bientôt 14 ans en paraît 10 ou 11 tout au plus. Elle et ses frères ont été longtemps sous-alimentés. Elle pose ses frêles mains sur le tronc sec de l'arbre de son enfance. Comment va-t-elle annoncer à sa mère que cette fois, Sid Ahmed, l'épicier, a refusé catégoriquement de faire crédit? L'ardoise de ton père est trop chargée. Il faut qu'il me paie d'abord. Rentre chez toi. L'homme a dit ça de sa voix grasse, devant des autres clients de l'épicerie. Yamina a baissé les yeux. Elle a senti ses joues inondées de larmes. Elle a fait demi-tour, le cœur lourd et son panier désespérément vide. Maintenant, il lui faut trouver le courage de faire tous ces kilomètres à pied pour revenir à la maison. C'est épuisant de rentrer vaincu. Rama attend sur le seuil, main sur les hanches. « Alors, où sont les provisions ?» Derrière elle, les autres enfants braillent de faim. Le regard de Yamina est éloquent. Elle rentre bredouille. Rama n'a pas l'idée de la consoler. Elle ne mesure pas l'humiliation infligée par l'épicier. Elle est furieuse et après lui avoir jeté un regard sombre, elle arrache le panier des mains de Yamina. « C'est ta faute. Tu ne sais pas parler. Tu n'es bonne à rien, toujours à regarder par terre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qui va nourrir tes frères, hein ? Et ton père ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va nous tuer. » Le père Madouri est passé de héros de l'indépendance à champion de domino. Il erre à la recherche d'un emploi de fortune. Il se débrouille. Sinon, il traîne au café, joue aux cartes et fume du mauvais tabac. Il est obsessionnel et contrarié, en permanence. Ses colères s'abattent sur Rama si elle a le malheur de se plaindre. Yamina déteste la violence de son père. Elle déteste s'interposer entre sa mère et lui et prendre des raclées à cause de ça. Dans ces moments-là, elle ne reconnaît plus ses yeux qui d'ordinaire sont si doux. La guerre a volé la gentillesse et la sérénité du père Madouri. Il n'y a pas de travail. Les terres sont arides. Les gens de la campagne ont tout perdu. Certains d'entre eux n'ont pas pu récupérer leurs terres. Ils n'avaient même plus de nom. Il ne restait plus aucune trace d'eux. Le retour au pays a été rude et la liberté chère payée.
Oui, les lendemains de la colonisation et les lendemains de l'indépendance, c'est pas simple. C'est pas simple sur le plan administratif, puisque en effet, il y a beaucoup de terres qui ne peuvent pas être attribuées immédiatement au moins. C'est pas simple, comme on vient de le voir, sur le plan de la vie quotidienne, parce que tout manque. Et donc, ce retour au village, finalement, il est bien amer. Mais Yamina, elle grandit et elle va grandir comme toutes les petites filles du pays et normalement se soumettre à un certain nombre de traditions. Alors, il y a un épisode où, alors que Yamina globalement obéit, un épisode où pourtant, un jour, elle résiste. Donc, c'est en Algérie, en 1964. Ce fut le seul et unique acte de désobéissance de Yamina. Jusqu'à là, adolescente docile et réservée, elle n'avait jamais causé aucun souci à ses parents. Après avoir été une enfant de la guerre et de l'exil, elle supportait, comme on vient de le voir, la pauvreté, la faim et même les trempes injustifiées. À 15 ans, elle goûtait aux conséquences amères de la libération et de la révolution sans protester. Yamina, en 1964, se remet à peine du choléra qui a touché beaucoup de familles du village quelques semaines plus tôt. Elle ressemble à un squelette triste. On ne voit dans son visage que ses grands yeux miel qui continuent d'éclairer, sa figure creusée. Ce jour-là, celle que l'on surnomme la vieille mère passe dans les villages de la commune pour tatouer les jeunes filles. Rama, la maman, porte évidemment un tatouage sur le front et sur le menton depuis l'âge de 13 ans.
et il est temps pour sa fille d'être marquée à son tour. Cet héritage tribal se transmet aux femmes depuis des siècles, de génération en génération, et symbolise l'appartenance. L'appartenance à la tribu, dans la tradition berbère, le tatouage est aussi un rituel de passage de l'enfance à l'âge adulte. Mais Yamina n'est-elle pas déjà entrée directement dans l'âge adulte ? La guerre ne l'a-t-elle pas privée de son enfance ? Et n'a-t-elle pas déjà quelques souffrances imprimées dans sa peau ? Enfin bon, sa mère lui a demandé de préparer le pain pour l'arrivée de la tatoueuse. Yamina, d'abord résignée à transporter sa maigreur jusqu'à la cour, et elle se prépare là, assise au sort qu'on lui réserve. Elle imagine comment la vieille mère va lui entailler la peau pour dessiner le motif, probablement le même que celui porté par sa mère. Une ligne entre les sourcils avec des petits traits en diagonale de part et d'autre, représentant la feuille de palmier qui incarne la mère protectrice. Bien sûr, il ne faudra ni bouger, ni crier, ni même gémir. Il faudra être forte, comme toujours. Yamina sentira le sang chaud couler sur ses sourcils, puis le long de son nez parfait. Elle imagine les doigts de la tatoueuse enduits de poudre de charbon qui ensuite frotte l'entaille et elle sent la flamber sur son visage. D'après les récits des femmes, d'ici, après ça, on est différente, on appartient à l'histoire des siens et surtout on est protégée. Elles racontent que cette pratique a une fonction magique. Elles disent « Quand le sang du front a coulé, le malheur est passé. » Mais le cœur de Yamina ne croit pas à ces balivernes. Si c'est la vérité, pourquoi toutes ces figures tatouées, tous ces dessins, tous ces motifs sur des minois en fait griffés de femmes qui n'ont jamais pu empêcher les malheurs passés de se produire ? On croirait que c'est tout le contraire. On dirait même qu'à cause de leur superstition, elles ont attiré les mauvais sorts. Il fait une chaleur caniculaire. Elle a la tête qui tourne un instant. Et au lieu d'aller chercher la semoule dans le sac en toile, comme prévu, au lieu de pétrir la pâte, comme prévu, au lieu d'allumer les bûches dans le four en terre cuite, comme prévu, Yamina, dans un élan de folie, sort de la meshta par la porte arrière pour prendre la fuite. Elle ôte son tablier, elle soulève sa robe et elle se met à courir et à dévaler les pentes à toute vitesse sans se retourner une seule fois. Elle n'accepte pas ce tatouage, elle refuse d'être marquée à vie. C'est décidé, cette tradition s'arrêtera avec elle. Yamina veut garder son visage intact, tel que Dieu l'a faite et tel que tous la verront ensuite. La jeune fille désobéit délibérément pour la première fois de sa vie et elle comprend immédiatement que refuser cette coutume lui coûtera cher, mais n'empêche, elle continue de galoper. Yamina a couru longtemps à travers les crêtes rocheuses, parcourant peut-être une dizaine de kilomètres vers le sud, avant d'être stoppée par son propre corps, la faiblesse de ce corps décharné qui n'arrive plus à avancer, qui n'est plus un allié. Yamina tient à peine debout, elle sent ses jambes trembler, elle est essoufflée, elle finit par s'accroupir, elle pleure là sur le sol sec. Elle peut enfin laisser échapper les sanglots retenus prisonniers dans sa gorge depuis des mois ou des années. Elle sait déjà que la furie de sa mère va s'abattre sur elle, sur sa tête. Elle sait que son père, en rentrant, lorsqu'il nettoie les sabots des chevaux, va la punir de cet affront, la punir de cette honte qu'elle aura portée sur leur maison et sur toute la famille, en choisissant de s'enfuir, en choisissant de refuser. Elle a peur, mais tant pis. Yamina essuie sa morve avec le revers de sa gondoura, elle se relève et elle se dit « Oh, il y a déjà eu pire que cela ». Elle reprend son souffle, elle se met à marcher lentement. En regardant le soleil, elle rentre chez elle. La vieille femme s'est probablement déjà remise en route, elle est partie. Et maintenant Yamina rentre, elle se prépare à la punition, mais elle se dit qu'elle va l'affronter la tête haute. Elle pense à son héroïne, Djabila Bouhired. Elle songe à l'éclat de son rire face au tribunal militaire du régime colonial français à l'annonce de sa condamnation à mort. Oui, cet éclat de rire frondeur face à l'injustice. Si seulement Yamina était venue du ventre de cette femme, si Djamila avait été sa mère, elle n'aurait pas eu à fuir. Djamila, elle, chérit la liberté. Elle ne lui aurait pas fait une chose pareille, elle ne l'aurait pas obligée à se faire tatouer le front. Le front de Yamina lui appartient. C'est son front de libération, personnel, son combat, le premier. Et ce combat, elle le gagnera, quitte à se prendre une raclée et à se pisser dessus sous les coups de son père. Yamina gardera son front libre jusqu'à la tombe. Et pour célébrer le front libre de Yamina, on va écouter une célèbre chanteuse de raï, c'est Shera Rimeti.
donc un peu de rail, effectivement, pour prendre l'air algérien. Et puis, retour auprès de Yamina. Qui, on l'a vu tout à l'heure, a bien grandi, a refusé le tatouage de la tribu, mais continue de travailler à la maison pour les parents et en même temps, évidemment, une fois grandi, on le verra tout à l'heure, va évidemment quitter sa famille, se marier, etc. Et on va faire une petite incursion dans le présent d'Yamina, parce que une fois qu'elle a grandi, qu'elle est mère de famille et qu'elle vit à Aubervilliers, comme on l'a vu, eh bien, elle s'aperçoit que entre son arrivée en France dans les années 80 et ce qu'elle vit maintenant avec les voisins, en particulier à Aubervilliers, bah, finalement, les choses ont bien changé. Alors, il y a un petit paragraphe, là, enfin deux, trois petits paragraphes, dans lesquels Yamina se livre à des réflexions sur la vie qui l'entoure.
Yamina, qui est pourtant de nature optimiste, qui ne voit le mal nulle part, sent bien, et c'est regrettable, que l'atmosphère change. Différente des années 1980, quand elle était en pleine trentaine, que ses enfants étaient petits, que les institutrices de l'école lui demandaient avec bienveillance de traduire des autres mamans. Peut-être que les choses étaient simplement moins flagrantes. Yamina a tendance à embellir ses souvenirs. Yamina, sans que, aujourd'hui, on ne peut plus tellement dire qui on est. Qui on est devenu trop risqué. Elle s'inquiète pour ses enfants, pour tous les enfants de leur genre. Elle demande à Omar de couper la télévision quand il met la chaîne d'information en continu. Ça la rend malade. D'ailleurs, par principe, elle refuse de prononcer le nom des éditorialistes et autres polémistes islamophobes à qui on donne la parole pour beugler leur haine là-bas vos lèvres. Elle préfère leur attribuer des sobriquets tels que Vouja El Kelb, figure de chien, Waou Aouj El Foum, bouche tordue, ou encore Sum Al-Alam, venin du monde. Elle les appelle comme ça, et les enfants rient. Ils adorent, ça dédramatise un peu la situation. On en oublierait presque la violence des mots qu'on vient d'entendre. Yamina dit calmement à ses gosses, auxquels on essaie d'enlever toute légitimité, « Je ne sais pas pourquoi vous vous énervez comme ça. Moi, je m'en fiche. Même s'ils veulent m'arracher mon foulard, ils n'arriveront jamais à arracher mon cœur. Et dommage pour eux, ma foi est dedans. » La voisine écoute probablement les discours de figure de chien, bouche tordue et venin du monde, elle aussi. Et Anna n'a pas la patience de Yamina. Le ton sec, elle lui dit simplement « Tenez votre chien là, s'il vous plaît. Je veux pas qu'il s'approche de moi », elle dit à ses sœurs. « Ils sont chiants. Depuis le temps qu'on est là, on a bien appris à vivre avec eux. Pourquoi c'est toujours à nous de faire les efforts? C'est bon maintenant, chacun son tour. » Je suis pas là pour les rassurer. S'ils sont trop cons pour pas se rendre compte qu'on est des êtres humains, c'est pas de ma faute. Eux et nous, des fois, on dirait une greffe d'organes qui prend pas. Yamina croit apaiser sa fille en lui répondant. C'est comme ça, Benti, on doit accepter. On est comme leurs invités, on est chez eux. Ça fout Anna à bout, ce genre de discours. Non, on n'est pas chez eux, maman. On n'est pas des invités. T'as reçu un carton d'invitation, toi? Moi, non, ça suffit. Ça fait 35 ans que j'entends ça. Nous, on est chez nous. On est nés ici. Et si on est arrivé là, c'est pas par pure coïncidence. Au train où vont les choses, pour eux, dans ce pays, Anna n'a pas de mal à imaginer qu'un jour, c'est son arabe qu'il faudra mettre en laisse. Et que, s'il ne se tient pas suffisamment à distance, quelqu'un se verra obligé de dire... Il va pas vous manger, n'ayez pas peur, il est gentil, hein, Karim, que t'es gentil. C'est un gentil arabe, ça, hein, gentil arabe à sa mémère. Yamina la supplie constamment de ne pas faire de scandale. Malgré sa grande gueule, Anna est une fille obéissante. Sinon, il y a belle lurette qu'elle aurait foutu un gros coup de pompe au chien de la voisine.
Eh oui, le chien de la voisine, ou le chat de la voisine qui mange la bonne cuisine, vous savez, c'est une vieille histoire. Ils ont bon dos. Et Yamina, elle, on le sait, a choisi la discrétion.
Et même si elle encourage ses enfants à faire de même, eh bien, évidemment, ils n'ont pas du tout envie de faire de même. Ils sont chez eux, effectivement. Et je vous citerai, pour faire le petit interlude, la citation de Frantz Fanon, qui disait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Alors Yamina, elle a rempli sa mission, elle a élevé ses enfants, et peut-être que la mission de ses enfants, le refus de la discrimination, c'est bien autre chose, en effet, que la discrétion. Mais revenons au passé, revenons à l'évocation que, par exemple, Faïz Aghen fait à travers la mémoire de Yamina de la mort de Boumediene. Algérie, 1978. Yamina eut la sensation que l'Algérie perdait un père. C'était le mois de décembre et elle finissait de tricoter une commande d'une douzaine de cols roulés et de paires de chaussettes montantes qu'on enverrait à des cousins travailleurs immigrés à Grenoble. Tout le monde sait bien que l'hiver est plus rude en France. Il arrivait à Yamina de penser à ces hommes lorsqu'elle devait dégivrer le réfrigérateur. Elle n'avait jamais vu la neige. Mohamed Madouri répétait en boucle « Jamais aucun président n'aura l'envergure de Boumediene ». Était-ce vraiment un homme bon et juste? Un patriote qui voulait bâtir un destin pour son pays fraîchement libre? Ces questions ne se posaient pas dans la famille. Boumediene était apparu comme un sauveur et cela suffisait à ne rien remettre en question. En tout cas, Yamina croyait son père et ses frères. Elle admirait cet homme au regard dur. Elle ne savait rien de la guerre fratricide qui avait eu lieu. Elle imaginait encore moins que l'Algérie vivrait longtemps sous ces menaces de ciel fratricide. Eh oui, petite parenthèse politique, vite refermée d'ailleurs. C'est difficile de prendre position, peut-être, 40 ans après, justement. Mais il n'empêche qu'on continue avec les souvenirs de Yamina et on continue en particulier avec ses souvenirs de mariage. Algérie, 1981. Yamina n'a rien vu d'autre que ses mains. Cet homme, oui, elle a vu ses mains. Alors qu'il signait l'acte de mariage à la mairie de la Daïra, elle a discrètement levé les paupières à travers le hayek. Pourtant, elle était pudiquement enroulée dans ce hayek. Elle était protégée du monde. Et finalement, elle n'a vu que ses mains si grandes. Elle n'avait jamais vu de telles mains. Qui venait-elle d'épouser, un géant, un ogre? Brahim Taleb avait une signature vacillante. Le stylo prêté par Lucadi semblait tellement petit entre ses doigts. À vrai dire, même le marteau-piqueur qu'il avait l'habitude de saisir fermement sur les chantiers en France avait un peu l'air d'un jouet pour enfant dans ses mains. À la mairie, Yamina tremblait de timidité. Voilà qu'elle se mariait, oui, à 30 ans passés. Elle en ressentait une forme de honte. Les filles de sa génération étaient déjà toutes parties. À 15 ans, 16 ans, elles avaient fait des bébés d'ailleurs très vite. Les femmes des terres de campagne se mariaient très jeunes, celles de la ferme en particulier. Yamina était quasiment devenue vieille fille, enfin la vieille fille du coin, on commençait à se moquer d'elle. Et donc elle avait fini par accepter à contre-cœur d'épouser cet homme migrant, parti déjà et de 10 ans son aîné, Brahim Taleb. Les années avaient défilé, les prétendants aussi, au moins au début, et finalement son père ou elle avait repoussé les hommes qui demandaient la main d'Yamina. Ce n'est pas qu'ils étaient particulièrement exigeants, mais les parents avaient besoin de cette fille aînée et elle, elle ne tenait pas à les quitter vraiment. Cette fille dont son père disait « Ah ah, elle vaut au moins mes 6 garçons !» Alors, il se disait qu'il ne se passerait pas de son aide à la ferme, qu'il ne se passerait pas de ses travaux d'aiguille ou de tricot, qui rapportaient quand même un peu d'argent à la famille. Et puisqu'elle avait pris en charge l'éducation de ses frères et sœurs plus jeunes, puisqu'elle avait contribué aux dépenses du foyer grâce aux ressources de la couture qu'elle rapportait à la maison, Puisqu'elle avait été très souvent une fille docile, elle était devenue le bras droit du père, oui. Et finalement, d'autres prétendants ne s'étaient pas présentés. Et le seul à vouloir Yamina, oui, ben maintenant, c'était cet homme de 40 ans passé qui avait passé une partie de sa vie dans la France du Nord, dans les mines, dans les chantiers, qui connaissait bien sûr l'exil et les foyers de travailleurs et qui allait ramener avec lui en France cette jeune femme, plus très jeune finalement. Rama, la mère, n'avait pas accueilli la nouvelle du mariage avec une grande joie, mais elle avait obéi à son mari. Ils avaient laissé le dernier mot à leur fille. Et elle, oui, elle eut vraiment le choix. Elle avait dit oui, c'était un peu comme une formalité. Mais au fond, elle se demandait comment son père, après l'avoir gardé jalousement auprès de lui, comment avait-il pu se résoudre à l'envoyer de l'autre côté de la Méditerranée? Comment avait-il pu la laisser partir vivre dans ce pays des colons qu'il avait mis tant d'ardeur à chasser du sien? Alors voilà, Yamina est mariée, Yamina va s'en aller, elle va quitter l'Algérie pour la France et elle va s'installer à côté d'Aubervilliers, enfin elle va s'installer à Aubervilliers, à côté du fort d'Aubervilliers, à côté de la ligne 7, à côté du fameux cirque équestre Zingaro. Et voilà, nous allons avoir sa vie qui se déroule maintenant à Aubervilliers et sa vie qui se trouve éclairée, figurez-vous, par un jardin ouvrier. Donc c'est Françoise qui nous lit ça, France 2019. C'est une parcelle de terrain
d'environ 150 mètres carrés. Un jardin ouvrier que l'Association des jardins familiaux d'Aubervilliers a attribué à la famille Taleb en en 2007. Lorsqu'elle a escorté Yamina à son jardin la première fois, Marie-Claire, la responsable de l'association, lui a dit sans savoir « Vous avez de la chance, dans celui-là, il y a un figuier magnifique. »
Un figuier.
Tous les ans, il donne à Yamina des figues délicieuses à la fin de l'été. Elle en cueille des bassines entières. Elle a beau en donner aux amis et aux voisins, ça n'en finit pas de pousser. À croire que plus elle en donne, plus l'arbre offre de fruits. Yamina fait aussi des confitures. Elle pense au figuier de son enfance, celui qui a tristement péri à Msirda. Désormais, l'arbre de Yamina, sa baraka, n'est plus en Algérie. Il est ici, à Aubervilliers, bien enraciné et généreux. Très vite, c'est devenu le jardin de Yamina. La partie de Brahim, c'est les mauvaises herbes et les barbecues. Le reste, Yamina s'en occupe à sa façon et contrairement à ce qu'imaginait Manuel l'Espagnol, elle n'a pas planté de fèves ni de patates. Elle a commencé par des fleurs, des œillets d'Inde. Lorsqu'elle jardine, elle oublie tout. Parfois même, elle chantonne. Elle ne s'arrête que pour faire sa prière dans la cabane. Avant, elle priait sur l'herbe fraîche quand il faisait beau temps. Yamina est une fille de la terre. Ça lui plaisait de se connecter, de sentir l'énergie du sol lorsqu'elle se prosternait, d'avoir l'immensité du ciel au-dessus de sa tête. C'était agréable de prier en plein air, c'est vrai. Elle ne le fait plus. Elle ne se sent pas en sécurité. Yamina préfère se cacher. Surtout, depuis l'histoire de cette mère de famille poignardée simplement parce qu'elle portait un foulard. Oui, Yamina y pense, de plus en plus souvent. Qui on est devenu compliqué. Brahim la taquine parfois. Alors, la fille de la ferme, ça te manque d'avoir les ongles pleins de terre? Ça n'amuse pas vraiment, Yamina. Elle répond. C'est ta sœur, la fille de la ferme, tout en continuant à planter ses échalotes sur les genoux, tandis que lui prend le soleil d'Aubervilliers, étendu sur un transat en plastique, les orteils nus. La vérité, c'est que Brahim est jaloux du talent de sa femme. Il a beau avoir été le roi de la pelle, jardiner et creuser une station de métro, ce n'est pas la même chose. Brahim est un homme robuste, mais il n'est pas patient et encore moins précis. Ses qualités sont incontestablement nécessaires pour faire un bon jardinier. Dans le potager de Yamina, on jurerait que les lignes ont été tracées à la règle, pas la moindre feuille qui dépasse. Tout est ordonné et agréable à regarder. Le jardin est fertile et béni, ça saute aux yeux. Malika, chaque fois qu'elle y accompagne sa mère, le week-end, commence par dire « Comment c'est calme ici, ça donne envie de faire la sieste. » Et Yamina répond systématiquement « Va dans la cabane et fais la sieste, Benti, qui t'en empêche ?» Malika s'étend sur une banquette dans la cabane et ne tarde pas à roupiller. Elle a regardé pas mal de tutos sur YouTube afin d'apprendre à respirer en profondeur et à sentir ses membres pour un endormissement rapide. Elle est connue pour ça à la mairie de Bobigny, c'est la championne des micro-siestes, porte du bureau fermée à clé pendant les temps de pause. Chaque fois que les autres jardiniers de l'association passent devant la parcelle des Talebs, ils s'exclament « Waouh, vous avez un beau jardin, madame !» ou sifflent pour expliquer leur admiration. Yamina sourit et remercie, et sitôt la personne partie, elle s'empresse de chuchoter « Tabarakallah, Dieu bénisse !» pour éviter qu'on ne lui jette l'œil et que tout tout ne dépérisse. Il faut bien se protéger. Et qui de mieux que Dieu pour ça ?
Protégé par Dieu, oui, peut-être, mais aussi protégé par sa discrétion. Vous l'avez compris, Amina, elle a choisi de ne pas trop affirmer qui elle est. Comme on disait tout à l'heure, ça devient difficile d'être qui on est, ça devient difficile de l'exprimer. Et donc, en fait, elle est discrète. Elle a choisi le bonheur simple, le bonheur dans son jardin. Cette espèce de « il faut cultiver son jardin pour retrouver son équilibre », oui, c'est sûr, c'est ce qu'elle pense et c'est ce qu'elle ressent. Et c'est ce qu'elle ressent parce que, vous allez voir, juste une petite plongée, disons, dans le passé, on va revenir sur ce qu'elle avait ressenti quand elle était arrivée en France en 1981. La seule chose qu'elle savait, c'est le nom du président de la République. François Mitterrand. Elle savait aussi qu'il avait milité pour l'Algérie française dans le temps. C'était peut-être pas tout à fait un ami. Enfin bon, fallait voir. Yamina n'avait jamais vu un ciel si gris, des nuages si lourds, connu des nuits si froides. Ben oui, elle était en France. Et en fait, dans l'urgence, ce qu'il avait trouvé de mieux, Brahim Talem, pour faire venir sa femme, bien avant l'appartement d'Aubervilliers, c'était, après les démarches du regroupement familial, une espèce de petit logement bizarre, non, qui était bien mieux que les bidonvilles de Nanterre, mais enfin, une espèce de petit logement bizarre à Paris 18e qui n'était pas le rêve, quoi. Quelques gars qu'il avait connus à l'époque étaient déjà retournés au pays, bénéficiant de l'aide au retour, parce qu'ils n'en pouvaient plus de la France, parce qu'ils n'en pouvaient plus de ces ciels gris, de ces boulots de merde, de ces salaires de misère, etc., etc. Brahim, il avait songé à repartir, mais finalement, il était resté, et donc il avait fait venir sa femme, puisqu'il s'était marié. Il travaillait toujours dans la même entreprise de BTP. Il était entre deux âges, il était vraiment trop tard pour recommencer. Il avait donc quitté son foyer de puteau et il avait trouvé ce deux pièces plein d'humidité dans le 18e. Le propriétaire, Monsieur Bonnet, avait prévenu Brahim. De toute façon, si l'un des locataires de l'immeuble ne règle pas le loyer ou les charges, on coupe l'eau, hein, on coupe l'eau à tout le monde tant que c'est pas payé. Il n'y avait pourtant pas de douche dans l'appartement, juste à partager sur le palier en même temps que les WC. Et on avait indiqué à Yamina, quand elle était arrivée, les bains-douches publics. Ben oui, les bains-douches publics, c'était quand même mieux. Et y aller une fois par semaine, c'était bien. Ça permettait d'avoir vraiment son comptant d'eau froide, d'eau chaude, mieux que le robinet de la cuisine, mieux que l'espèce de douche sur le palier. Non, elle n'avait sûrement pas envie d'aller prendre sa douche sur le palier. Et elle allait s'y faire, finalement, à cette villa. Brahim était gentil, il ne la frappait pas. Brahim écoutait bien ce qu'elle disait. Il était, bien sûr, un travailleur sérieux. Il était robuste. Et finalement, il avait été choisi par ses parents. C'était pas par hasard. Il lui avait offert, en arrivant, des chaussures et des robes choisies chez Ronnie Prix sur le début de la Nationale 2. Et il avait acheté aussi des nèfles au marché et en faisant enfin, avant de faire la cuisine, les nefs le sentaient si bon. Ça sentait si bon dans le sachet de papier ouvert. Donc oui, c'est sûr, Brahim, il avait bien des qualités. Yamina, finalement, pouvait s'estimer heureuse d'être là. Son père avait choisi cet homme pour elle. Oui, elle allait suivre cet homme, épouser cet homme, faire des enfants avec cet homme, vivre avec cet homme. Et elle vivrait en France. Et oui, c'était ça. C'était ça. Pas question de « ramène-moi chez mon père », pas question de « je ne supporte plus ce pays, son ciel gris, ses nuages lourds, je ne supporte plus la solitude ». Et d'ailleurs, la solitude avec les enfants, finalement, j'en serais guérie. On n'en meurt pas de ne pouvoir parler à personne. On n'en meurt pas d'écouter la radio toute la journée à défaut d'autre chose. Voilà, c'est devenu la vie d'Yamina. Et nous allons vous quitter là-dessus, puisque c'est presque l'heure. Donc, nous vous souhaitons, si vous avez envie de lire ce roman de Faïza Ghen, beaucoup de plaisir à faire connaissance vous-même, par exemple, avec les enfants d'Yamina, qui n'ont pas du tout envie de rester dans la discrétion. On vous retrouvera la semaine prochaine avec d'autres femmes. À bientôt!
Here's a song that comes from Tanzania.